À voix nue. Cette semaine, Johanna Bedeau rencontre Jean Lebrun. Ce soir, notre guerre, les années SIDA.
Journaliste, homme de radio, mais aussi professeur d'histoire à Saint-Denis, vous avez dirigé le service culturel de La Croix et collaboré dans les années 80 à Combat et Esprit. Sur France Culture, vous produisez les émissions Culture Matin, Pot-au-feu, Travaux publics, Sur les docks, avant de poursuivre votre route à France Inter, où vous animez chaque jour depuis 2011 la marche de l'histoire. Auteur de plusieurs ouvrages, vous recevez Jean Lebrun le prix Goncourt de la biographie 2014, attribué pour Notre Chanel, un travail biographique sur la couturière entrepris des années plus tôt avec votre compagnon Bernard Costa. On dit de vous que vous êtes un homme grave et profond, animé par la puissance du passé qui vous accompagne, motivé par celle du devenir. Bonsoir Jean Lebrun.
Bonsoir Johanna.
En juin 1981, l'agence épidémiologique d'Atlanta annonce au monde médical que 5 patients souffrent d'une pneumonie gravissime et rarissime. Le sida fait alors son apparition un peu partout dans le monde et déclare la guerre. Une guerre au départ très silencieuse. Votre compagnon Bernard Costa est touché par cette maladie et la communauté homosexuelle dans son ensemble est en première ligne. Quand vous parlez de cette période de votre vie, Jean Lebrun, vous évoquez les tranchées. Le sida, c'était votre guerre à vous ?
Mais enfin, avant les tranchées, il y a eu l'illusion. Enfin, mon ami Bernard, c'était un ancien du palace. Donc, un provincial monté à Paris, qui me racontait ce que moi, je me serais interdit de vivre, les soirées du palace, les soirées du restaurant du palace, le privilège, Fabrice Aymer. Je ne connaissais ça que de très loin, un petit peu par Michel Guy, qui fut secrétaire d'État à la culture et qui était dans ce monde-là, du côté de la rue Sainte-Anne. Donc il y avait eu l'illusion, et l'illusion d'être plus puissant que toutes les autres forces contradictoires, puisque la libération était venue, que la joie éclatait, que tout était possible. Donc, avant les tranchées, il y a eu la déclaration de guerre, quoi. Le tonnerre, la surprise, enfin bon, le tocsin. Si j'ai un souvenir, moi, c'est celui d'une réunion de rédaction à La Croix. J'étais à La Croix à l'époque. Je croyais qu'on ne savait pas que j'étais homosexuel, et depuis, des copains de La Croix m'ont dit, mais tu sais, avant même que t'arrives, on avait dit que... Ah bon. Et la responsable du service santé, un matin, au moment du partage des pages, a dit, c'est important, il faut faire beaucoup, et on appelait ça le cancer des homosexuels. Et puis, deuxième coup de tocsin, la mort de Rock Hudson, enfin la maladie du comédien américain. Et là, j'étais avec Bernard à Biarritz, on devait commencer à enquêter sur le passé de Coco Chanel, qui avait créé une autre maison de couture à Biarritz pendant la Grande Guerre. Et j'ai en mémoire la lecture des journaux, là, devant l'océan, les journaux achetés chez Darigad, la maison de la presse, et puis dépliés sur un banc, et on les regarde ensemble, et on voit que Rock Hudson, vedette, dont on ne disait pas qu'il était gay, était venu se faire soigner tout spécialement à Paris, et puis que la situation étant désespérée, il avait été rapatrié en avion aux États-Unis. Un avion privé, parce qu'aucun avion de ligne n'avait voulu prendre la responsabilité de le transporter. Je ne me souviens plus du tout de la réaction de Bernard. À ce moment, la mienne était sans doute marqué d'un peu d'indifférence. Enfin, quand même, j'avais ressenti un petit choc. Lui, sans doute plus précisément, parce qu'il savait, sans me l'avoir dit, qu'il était homosexuel et qu'il était séropositif. Et J'avais repéré chez lui, je ne vois pas grand-chose, j'ai pas l'œil, je ne suis pas très psychologue, mais enfin j'avais repéré chez lui un changement d'attitude et un assombrissement. Et puis, après le toxin, il y a la blessure quoi, qui intervient quand la maladie se déclare.
Quand est-ce que vous en avez pris conscience, justement ?
Bah, j'en ai pris conscience quand, chez lui, les maux de tête ont pris des proportions énormes, qu'il a fallu le transporter d'ici, où nous habitions déjà, à l'hôpital Brousset, qui maintenant est fermé, et qu'il est parti. Il a disparu. Il a fui l'hôpital, après m'avoir téléphoné en disant que le sida s'était déclaré. J'ai vu après les papiers médicaux, il y avait quelque chose d'assez impressionnant, c'est que les lettres sida étaient écrites en majuscules, l'annonce de quelque chose d'incurable, d'inéluctable. Le poids des mots, le choix des mots, ça a été très important dans le déroulement de la maladie. Le premier médicament dont on pensait qu'il était un peu efficace s'appelait le rétrovir. Et quand on y réfléchit, rétrovir, ça veut dire arrière la virilité. Tout ce à quoi tu croyais, tu peux l'abdiquer. Donc il a disparu, il s'est évaporé. Il est allé se réfugier dans sa région. Et puis, peu de jours après, moi je continuais à faire l'émission de France Culture tous les matins. C'était un peu difficile parce que je ne savais pas trop où il était, s'il s'était tué, s'il s'était réfugié chez je ne sais qui. Un peu après, il m'a appelé de Gény-les-Bains, où il s'était dissimulé dans un hôtel et m'annonçant que... Il reprenait contact avec ses parents et que ses parents l'emmèneraient très certainement à l'hôpital à Montpellier où je l'ai retrouvé. Mais cette première période, dans les premières années de la maladie, est intéressante à beaucoup de points de vue parce que la maladie était entourée d'une crainte de l'épidémie terrible. C'est-à-dire que les malades étaient isolés. Je parle de Guy de Chauliac, l'hôpital de Montpellier, où il a d'abord été. Peut-être maltraité. Tel copain d'enfance de Béziers, qui était venu le visiter, qui était médecin pourtant, se tenait, j'ai assisté à la scène, le plus loin possible du lit, au cas où. La transmission, dont on ne savait pas très bien comment elle se passait, aurait pu l'atteindre. Il y avait une atmosphère de peste au départ. Et les choses auraient pu très très mal tourner. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu un certain nombre de responsables politiques qui avaient remonté la pente que d'autres voulaient faire descendre à l'opinion publique, on aurait crié à la Lali et isoler les malades dans des conditions qui auraient pu être effroyables.
Alors justement, les malades du sida, on les place à cette période-là, on les place en quarantaine, les soignants paniquent face à ce mal qu'ils imaginent bien plus contagieux qu'il ne l'est. Et puis, cette époque-là, c'est aussi, comme vous dites, la stigmatisation des malades. On parle encore de la maladie des 4H.
Oui.
Vous entendez ça, l'hémophilie, homosexuel, haïtien, héroïnomane.
Et puis on parle aussi, enfin, il ne faut pas l'oublier, moi j'arrive pas à l'oublier. Le pardonner non plus d'ailleurs. Monsieur Le Pen emploie le mot sidatorium. Le premier temps au sidaïque, comme il dit. Et dans sidaïque, vous avez quelque chose de proto-judaïque. Le père de mon ami Bernard, qui était un adepte de Monsieur Le Pen, aurait voulu le confier. Un mec qui a disparu de la circulation, convaincu d'escroquerie, je crois, est mort il y a peu de temps, qui s'appelait le patriarche, et qui avait imaginé des fermes pénitentiaires, où on aurait fait casser des cailloux, grosso modo, aux malades du sida pour expier, et pour mériter la faible nourriture qu'on leur aurait consentie. Il y avait vraiment, dans certains secteurs de l'opinion, cette atmosphère. Mais que s'est-il passé? Certaines personnalités politiques ont fait quand même des choix courageux. Et moi, je me souviens, parce que je continuais à faire l'émission Culture Matin, et je donnais à la question du sida peut-être une part un peu excessive. Les auditeurs devaient se dire, hein, on en parle vraiment beaucoup. Je me souviens en particulier de Michel Barzac, qui était ministre de la Santé à l'époque, qui était une femme que je trouvais assez séduisante, drôle, qui s'asseyait dans le studio de Culture Matin, qui se déchaussait. Alors, si j'avais eu l'esprit à rire, j'aurais bien déplacé ses chaussures pour qu'elle ne les retrouve pas. Mais j'écoutais trop ce qu'elle disait, et elle a pris des positions qui ont contribué, ainsi que celle de Jacques Chirac, qui était Premier ministre, une spirale vertueuse. Alors, pour revenir à la comparaison, la tranchée. Les gens malades du sida, leurs accompagnateurs, leurs familles, les officiers, que d'une certaine manière représentaient les médecins et les membres du personnel de santé, formaient tranchée. Il y avait une cause commune. On était dans la même situation, on partageait les mêmes difficultés. Et c'était assez beau, les chambres d'hôpital au temps du sida. Je me souviens de Françoise Hardy venant visiter le voisin de chambre de mon compagnon, lui apportant le Nouvel Observateur, avec dans les pages intérieures du Nouvel Observateur les propositions de vente de domaines et de beaux appartements, et ce garçon qui allait mourir une semaine après, qui rêvait à la demeure que lui indiquait le doigt de Françoise Hardy. Je me souviens des repas préparés en commun, parce qu'on achetait des fours à micro-ondes pour le service, et puis on pique-niquait, quoi, avec les malades. Et le souvenir qu'on en garde, c'est un petit peu le même que celui que les copains de tranchées ont gardé. Ils sont spontanément proches, ils n'ont pas besoin de mots, ils n'ont pas besoin de retrouvailles régulières. Ils sont de plein pied avec les camarades qu'ils ont fréquentés dans ces moments de difficulté. Mais il faut voir qu'il y a eu des étapes. Et qu'après la grande débandade de la Marne, il y a des positions qui ont été prises. On s'est installé dans la durée, on a pu installer de la logistique. Des réseaux se sont constitués. Les malades, je ne parle ici que de Paris, de Saint-Louis, de Thonon, de Pompidou, les malades n'étaient pas seuls et étaient pris dans un cercle. Moi, j'ai une reconnaissance infinie pour la chef de service qui s'est occupée de Bernard, qui s'appelle le docteur Cécile Winter. Cette femme était capable de tenir tête au malade, de le désarçonner quand un jour qu'il se plaignait, qu'il disait que son taux de T4 était dans les chaussettes, et lui a répondu « Mais je viens de rencontrer une mère malgache sans papier qui est en train de mourir et j'ai adopté son fils. » Ah ! Alors là, Bernard, il était sans voix. Et quand ce médecin est venu à la maison dans les dernières semaines, au moment où la mort était inéluctable, et qu'elle lui a expliqué à domicile, s'étant déplacé, ce qui allait se passer précisément, j'ai eu le sentiment qu'ils ont vécu ensemble. Ben, j'étais pas là, je m'étais éloigné. J'étais allé faire une interview de Maria Cazares sur la mort. Un moment inestimable.
Comment vous avez vécu, vous, ces années-là, Jean Lebrun, plongé dans ce grand traumatisme social?
Ben, j'ai vécu ça comme un fait social total, parce que ça mettait en branle tellement de sujets, politiques, scientifiques, sociaux. J'ai vécu ça dans une immense difficulté, parce qu'il fallait mener de front le travail, mener une équipe, à la radio, faire une émission quotidienne au petit matin. C'est là qu'on s'aperçoit que, de même qu'un prof est redevable de ses élèves, un chef d'équipe est redevable de son équipe. Et que l'apport de celle-ci est absolument indispensable dans la discrétion, la retenue, mais une affection constante. Alors j'ai vécu ça dans cette difficulté. Et puis, la fatigue accumulée. Non, ce qui est le plus difficile, c'est la solitude. Parce que j'ai mesuré combien c'était plus malaisé d'accompagner une mort dans la solitude que d'accompagner une mort quand vous avez tout un dispositif familial autour de vous qui vous aide. Là, il se trouve que la famille était hostile, sauf le frère de Bernard qui a été très présent. Son père reprochait au frère. Il maudissait parce qu'il s'occupait du malade.
Hostile à quoi ? À l'homosexualité ? À la maladie ?
Oui.
À votre vie de...
Oui, à Paris, aux importants. Bon, Bernard était journaliste de mode, à la mode, à la futilité. Bon, et c'était un petit notable de province du Front National. Donc, c'est difficile d'être sans l'accompagnement, sans le dispositif social. Et le passage de la mort et la cérémonie autour du mort, moi, c'est un thème auquel je tiens toujours beaucoup et particulièrement incommode. Bernard, comme la plupart des malades du sida, voulait être incinéré. C'est très important le sida dans l'histoire des dispositifs funéraires en France. C'est l'explosion de la crémation. Les malades du sida considéraient leur corps comme contaminé et disaient qu'il ne pouvait pas être porté en terre. Bernard demandait même que ses cendres soient jetées à la voirie. On a quand même fait tant bien que mal une cérémonie. Bon, c'était un anonyme de la vie sociale, c'était un journaliste qui n'était pas connu, et puis il était déjà retiré depuis pas mal de mois des dispositifs mondains, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Le frère, qui cherchait à savoir comment nouer sa cravate, quelques amis de mon côté, très peu du sien. Bon, la mort qui n'est pas encadrée par un rituel, c'est terrible. Et crématorium du Père Lachaise, les gens de mon équipe avaient préparé un programme musical, genre ballet russe, parce que Chanel avait travaillé avec Diaghilev. Et le mec du Père Lachaise voulait pas passer le programme musical, parce que lui, il avait son cérémonial laïque, banal, plein d'euphémismes, avec des musiques pompeuses. Il tenait à dire des propos de circonstances. J'ai pris en exécration les funérariums depuis ce moment-là. Alors, peu à peu, les dispositifs mortuaires aussi autour du sida se sont organisés. Alors, ou bien sous la forme revendicative, avec les lancers de ballons aux États-Unis, la forme hyper revendicative comme dans le film de Campillo, où le président Klaus Vallet du d'ACTOP fait disperser ses cendres sur un buffet d'une compagnie d'assurance qui est en train de donner un raout. Et puis moi-même, enfin, ayant participé ou dirigé d'autres cérémonies funéraires dans des circonstances comparables, j'en ai maintenant une maîtrise à peu près parfaite. Et tout ça, c'est très banal. Tous les gens qui ont accompagné des grands malades le savent d'expérience. Il y a beaucoup de moments où on se dit qu'il faudrait que ça cesse. C'est-à-dire que on quitte le malade, on l'embrasse sur le front et on lui souhaite une bonne journée. Puis on descend vers la radio, on se retourne vers l'appartement et on dit il faudrait que ça cesse. Et il y a évidemment une part de soulagement au moment de la disparition qui vous permet de retrouver votre être. Mais bon, tout ça, L'important, je crois, que c'est qu'il faut pas faire son deuil. Moi, je ne crois pas du tout à cette expression, ni à cette attitude. Il faut essayer d'être dans l'état où le mort vous a laissé. C'est-à-dire que moi, j'ai pris 30 ans d'un coup et j'essaye d'être au même âge que j'avais quand Bernard est mort. C'est-à-dire que ce qu'il aimait en vous, il est préférable que vous ne le perdiez pas et que vous le gardiez précieusement et que vous restiez son interlocuteur. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire son deuil.
Comment vous l'aviez rencontré ?
Oh, je l'avais rencontré dans un lieu de drague, tout bêtement, et il était un peu perdu, et il avait dû trouver en moi une figure paternelle.
Qu'est-ce que vous aimiez, vous, chez lui ?
La vigueur, la jeunesse, la plaisanterie, la liberté. Non, puis l'œil. C'était un garçon qui avait un œil. Donc, cet appartement, il est resté tel qu'il l'avait disposé. C'est-à-dire que j'ai laissé les objets, les choses, les tableaux, les meubles, qui, pour certains d'entre eux, viennent de lui, pour la plupart d'entre eux, viennent de lui, dans le dialogue qu'il avait organisé. Et donc, j'ai pas l'impression d'être dans une chambre mortuaire. Je suis resté ici parce qu'il était là, quoi. Le mort est un interlocuteur idéal. Surtout quand on a été à son égard noble, fidèle, saint, disponible, enfin tout le contraire de ce que j'ai été avec mes parents. Donc quand l'aumônier de l'hôpital vient le voir et qu'il lui dit « c'est un saint, Jean », voilà, c'est valorisant. Je comprendrais que je préfère parler de ça plutôt que du silence dans lequel j'ai entouré mes parents, mais avec mes parents, je pouvais pas dire la même chose. Enfin, on était plus sur la même longueur d'onde. Des écarts s'étaient creusés. Le vocabulaire n'était plus le même. Les regards n'étaient plus les mêmes. Voilà.
Vous étiez avec lui au moment de sa mort ?
Non. Il est mort la nuit. Je n'étais pas avec lui.
Et alors, après plus de 20 ans, Jean Lebrun, en historien et en conteur, vous réussissez à écrire un livre que vous aviez commencé avec votre compagnon, Bernard Costa.
C'est-à-dire que quand quelqu'un voit la mort approcher, il peut la repousser en s'attelant à quelque chose dont la durée improbable peut-être correspondre à la résistance de sa vie. Donc pendant 2 ans, pendant les années de sa maladie, on a pied à pied enquêté sur Chanel. Alors moi, ça m'intéressait pas du tout, Chanel, pour tout vous dire. C'est pas du tout mon monde. Enfin, je croyais que c'était pas mon monde. Mais j'ai suivi, j'y ai mis beaucoup d'énergie, parce que chaque lettre reçue, à l'époque, on fonctionnait pas sur le net. Chaque réponse à une question qu'on avait adressée à tel ou tel témoin, à telle ou telle maison d'archives, ça l'occupait toute la journée.
C'est-à-dire que vous décidez ensemble de partir là, dans une espèce de road movie à travers la France sur les traces de Gabriel Chanel. Alors,
c'est toujours mon principe, il ne faut pas aller au centre. On n'a pas été interrogé, Madame Charleroux, et les témoins usés et obligés. On est allé dans les replis de la vie de Chanel, donc dans les endroits que les autres n'avaient pas explorés. Et les moments où on allait ensemble dans un endroit, c'était comme des éclats de bonheur, vous voyez, dans une vie noire et difficile. Et je me souviens en particulier d'un lieu qui a été très central pour nous, qui s'appelle Corbert. Chanel avait une famille dissimulée, qu'elle protégeait, qu'elle entretenait, et qu'elle avait installé non loin de Pau, qui était une ville importante pour elle. Et elle avait acheté un petit château à Corbert, un château parfait. Hein. Il était très bien organisé, il correspondait exactement à ce qu'elle était. Donc il y avait une petite chapelle, une maison de religieuse minuscule, le château, des doubles portes dans toutes les pièces, des glaces, un bel escalier, des lions, un fantôme, une légende, enfin tout ce qu'il fallait. Et on se retrouve là, et il est clos, Bernard, enfin, c'est l'hiver, c'est Noël, mais il fait beau, c'est de Béarn, et c'est comme un printemps.
Et alors, Bernard Costa, vous avez demandé avant de mourir, et vous avez dit notre livre, tu l'écriras.
Oui, et puis la promesse était quasi impossible à tenir, parce que le sujet est difficile. On l'avait laissé en plan, il aurait fallu reprendre l'enquête. Moi, j'étais plein de scrupules, parce qu'il n'y a pas d'archives écrites de Chanel, vraiment, qui puissent constituer un corpus. On n'avait que des témoignages, dont certains n'étaient pas toujours vérifiables. Alors j'ai pris le parti de raconter notre road movie, comme vous dites, notre enquête commune, et de mêler l'histoire de Chanel et la sienne. Avec toujours ce principe de l'égalité en tête, c'est-à-dire que je trouvais injuste que cette femme, qui a évidemment énormément de qualités, de talents, de dons, d'œil, de présence, soit environnée de la gloire la plus immense, et que mon pauvre Bernard, ce soit un anonyme oublié, qui ne laisse aucune trace dans l'éternité, alors que chaque vie qui a eu lieu change un peu l'éternité. Alors j'ai décidé de déplacer un petit peu, d'enlever un peu un rayon d'or de Chanel et de le poser sur la tête du mort, ce qui était quand même un peu risqué, parce que essayer de raconter les derniers mois de Chanel en les comparant aux derniers mois d'un malade du sida une génération plus tard, c'est un petit peu aventureux. Mais j'ai pris ce risque-là, et puis au fond, ça fonctionne bien, au nom du principe de l'égalité. Et puis ce qui a été très, très étonnant, c'est que pendant un an, j'ai été me promener avec ma vie sous le bras, en l'étalant, comme je le fais devant vous, là. Et sans provoquer jamais de réaction hostile. Même dans mon village, parce que vous allez me parler de ma famille, comme d'habitude, même dans mon village, je me suis laissé prendre au piège, donc je suis venu parler de ce livre, de cette histoire. Ils ont assez bien pris les choses.
Quelle image vous construisez à travers ce livre, Jean Lebrun ?
C'est une libération, ça me permet d'écrire autre chose. Voilà. Et puis, le fantôme est moins présent. Le fantôme du mort est moins présent. Enfin, il n'est plus là sous forme de cauchemar, il est là sous forme de compagnonnage. C'est déjà un résultat appréciable.
Merci Jean Lebrun. Demain ?
Retrouverez demain la suite de cette rencontre de Johanna Bedeau avec Jean Lebrun. À voix nue, réalisation Angélique Thibault, prise de son Thomas Robin, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.